Petit extrait du livre, du moulin à prière et la dynamo spirituelle. Ou la machine à faire monter Kundalini. Tome 2. Dr. Francis Lefebure. Édition Phosphénisme. Dans le tome 1, de cet ouvrage, nous avons montré, tant sur des bases traditionnelles qu'expérimentales, que ce que les hindous appellent Kundalini, est un complexe de pensées rythmées comprenant des oscillations lentes, des fréquences rapides, et des tourbillons. On provoque ce dernier mouvement mental, si l'on médite tout en fixant un objet en rotation, car la pensée s'imprègne alors de ce mouvement, qui devient naturel, automatique et conscient. L'appareil nommé gyroscope, permet d'associer certaines méditations adéquates à cette fixation. Dans le présent tome, il est indiqué de multiples utilisations nouvelles du gyroscope, et leurs effets extraordinaires. Par exemple, comment il est possible de le pratiquer durant le sommeil, ce qui procure des expériences d'éveil, sur des plans spirituels, et de dilatation de la conscience dans le cosmos, exactement semblable à celle survenant, dans les initiations orientales. Il est à remarquer que lorsque cet éveil se produit, Kundalini, passe par les couleurs de l'échelle des températures de couleur, celle des étoiles en fonction de la température. Ce qui est un thème de concentration plus facile, et agréable que celui de l'arc-en-ciel. C'est en passant par ces teintes, qu'il monte de chakra en chakra. Avant-propos. Il est indispensable d'avoir lui-même pratiqué ce qui est exposé dans le tome 1, pour pouvoir suivre ce que nous allons exposer dans ce tome 2. Nous ne décrirons donc pas l'appareil, que nous utilisons, mais seulement un perfectionnement à son sujet, qui a l'apparence d'un petit détail, mais qui pourtant rend son usage plus facile et plus actif. Chapitre 1. L'aspect ascendant de Kundalini. Dans le premier tome de cet ouvrage, j'ai cité les travaux de Lillian Silburn, directeur de recherche honoraire du CNRS, qui est allé au Cachemire, y a suivi les enseignements d'un authentique gourou, et a de plus traduit des textes parmi les plus anciens au sujet du yoga pratiqué dans ce pays. Dans ses écrits, il est bien précisé que Kundalini est constitué, par un ensemble de rythmes de la pensée. Fondamentalement une association de tourbillons, d'oscillations, donc de l'axe de ce tourbillon, et de vibrations, c'est-à-dire d'un rythme très rapide, celui du frémissement. Lillian Silburn précise bien qu'il ne faut pas confondre ce Kundalini, originel, fondamental, avec la mythologie, qui lui a été ensuite superposée, surtout aux Indes. Mais, faisant partie de cet aspect rythme mental de Kundalini, il y a un quatrième élément classique, et décrit aussi dans l'ouvrage de Lillian Silburn, celui de force ascendante. Or, cet aspect est très important, pour la raison suivante. Dans expérience initiatique, j'ai précisé la notion de courant de pensée, en soulignant l'importance de ces courants. Un courant de pensée, est constitué par des images mentales visuelles animées d'un mouvement de sens uniforme. Par exemple, on se représentera des formes ressemblant à des gerbes d'étincelles permanentes, comparables à celles qui jaillissent pendant une soudure à l'arc ou au chalumeau. Ou bien des petites balles comme celles de ping-pong, ou des bulles qui seraient entraînées par un courant d'air invisible. Chaque expérimentateur prend la forme qui lui convient le mieux, mais ce qu'il y a d'important, c'est le fait que ces multiples petites images mentales visuelles, soient animées du même mouvement. Or, des observations attentives montrent que lorsqu'un tel courant de pensée, traverse une région du corps, il se charge en quelque sorte des caractéristiques de cette région, du moins dans ses rapports avec la conscience, et les transporte ailleurs. C'est étrange, mais c'est ainsi. Ceci est un des principes fondamentaux du yoga, qui a été instinctivement utilisé depuis toujours dans cette discipline, mais qui n'a jamais été clairement explicité dans les textes orientaux. Livre format papier et PDF, figure 3. Se représenter un courant de pensée, par exemple une gerbe d'étincelles, qui traverse les régions du corps, dont on a le plus conscience, facilite ensuite la représentation mentale à l'extérieur du corps de cette région, imagination synesthésique, c'est-à-dire condensation du double. Nous remarquerons que la région inférieure du corps est celle que l'on pourra appeler des trois excrétions digestive, urinaire et de reproduction, cette dernière chez la femme lorsqu'elle accouche. Cette région inférieure de l'organisme pourrait donc être appelée le bol excréteur. Un seul système y fait exception. Le système respiratoire, puisque l'expiration se fait par les narines. Il apparaît ainsi un trait commun entre la défécation, acte qui nous paraît instinctivement vil et repoussant d'une part, et la reproduction d'autre part, qui semble infiniment respectable, car c'est elle qui engendre les êtres vivants. Ce rapprochement peut paraître à première vue étrange, mais il est incontestablement naturel, puisque le cloaque, chez les oiseaux, les batraciens et les marsupiaux, est un rectum qui sert également à la reproduction. Or, c'est de cette zone qui correspond à ce que l'on pourra appeler cette trilogie de l'excrétion, que la plupart des traités originaux du yoga font partir cette force de Kundalini. Si donc, nous créons un courant de pensée ascendant, à partir de cette trilogie d'excrétion, c'est comme si nous voulions tirer l'essentiel, le plus spirituel des substances vivantes et inanimées que nous éliminons, avant d'en être séparés. C'est une des manifestations de cette loi de complémentarité universelle, que ce qui nous paraît le plus bas, inférieur et méprisable, est, si nous savons tirer l'élément le plus subtil, ce qui nous permettra de parvenir au sommet de l'esprit. En effet, considérons d'abord l'aspect de Kundalini, en rapport avec la fin de la digestion. On remarquera que c'est principalement dans le côlon, que l'eau du bol alimentaire est résorbée. L'eau, ce corps extraordinaire, par sa simplicité, par rapport aux éléments de la chimie organique, est le support de la vie. C'est en elle, en effet, que sont dissoutes les substances, dont les mouvements constituent notre existence. Elle représente 59% du poids du corps, précis de physiologie et dont. Douin éditeur, 13e édition. Page 14. Sa résorption terminale semble confirmer que plus on se rapproche de l'extrémité de l'intestin, plus c'est un élément subtil, proche du milieu originel, donc du créateur, qui est absorbé. Par conséquent, c'est tout à la fin de la digestion, qu'il sera le plus facile d'extraire l'élément divin, originel, mystique des aliments ingérés, à condition de faire l'effort de volonté pour cela. L'aspect psychique exagéré de l'alimentation, c'est la gourmandise. En faisant partir ce courant de pensée de l'extrémité inférieure de l'intestin, et en l'élevant jusque dans la tête, n'est-ce pas le meilleur moyen de transmuer notre attachement à la matière par le sens du goût, en force intellectuelle et spirituelle? Ceci, et le lecteur l'a déjà deviné, pour amener par analogie la fameuse sublimation des forces sexuelles en force cérébrale, grâce à la montée de Kundalini. Dans le tome 1, j'ai déjà indiqué, chapitre 6, 2, le point de départ du Kundalini, sexuel, que l'on peut émettre une hypothèse au sujet du point de départ du Kundalini, surtout lorsqu'on considère celui de ses aspects, qui est la transmutation de la force sexuelle en illumination. En effet, on peut admettre que les organes, qui ont une grande importance chez l'embryon, puissent atrophier avec la croissance, prennent par compensation un rôle capital, sur le plan spirituel. Ceci explique, par exemple, que la concentration sur le nombril joue un rôle important aussi bien dans le yoga oriental que dans le christianisme orthodoxe tel qu'il est pratiqué au mont Athos par exemple, puisque le nombril est la seule séquelle embryonnaire dont on puisse facilement prendre conscience, rien qu'en y pensant. Après le nombril viennent les traditions relatives à l'importance de la concentration sur la glande pinéale. Il faut reconnaître que l'esprit se porte plus naturellement dans la région de cette glande, lors de son effort d'intériorisation. Or, il existe chez l'homme une petite cavité, nommée l'utricule prostatique, qui est percée au sommet d'une saillie de la prostate dans l'urètre, le vermontanum. Cette cavité est l'équivalent de l'utérus chez l'homme. Celui de la femme n'est que le développement du même groupe de cellules de l'embryon. Chez le fœtus mâle, les hormones des futurs testicules ont bloqué ce développement. Chez la femme, c'est le clitoris qui est la verge atrophiée. Continuant le raisonnement que nous avons établi à propos du nombril et de la glande pinéale, on peut se demander si ces deux points ne sont pas l'origine de la force spirituelle en laquelle il est possible de transmuer la sexualité, faisant partir de là le courant de la pensée que l'on élèvera ensuite jusque dans le cerveau. Mais, si l'on veut considérer un aspect plus complet de Kundalini, qui serait issu de la trilogie des organes d'élimination, son point de départ serait situé à une moyenne entre l'anus, l'urètre et le point sexuel, donc en arrière de celui-ci. Ce point d'équilibre entre les trois organes de l'excrétion se trouverait donc un peu en avant du creux dans le périnée, qui précède l'anus. Cette hypothèse est tout à fait conforme aux traditions du yoga. Je rappellerai qu'il existe un autre aspect de cette méthode d'illumination, que j'ai déjà été amené à considérer. Supposons un astronaute, dont la fusée quitte la Terre, en direction du Soleil. Au départ, il a le Soleil au-dessus de lui et la Terre en dessous. Mais, dès qu'il a dépassé la ligne d'équigravitation, c'est-à-dire de gravitation égale, entre la Terre et le Soleil, il se sent tomber sur le Soleil, qu'il a alors au-dessous de lui. Si nous transposons cette loi dans notre vie intérieure, cela signifie qu'au début de nos entraînements, la lumière nous paraît venir des plans supérieurs, mais à partir d'un certain degré d'élévation spirituelle, la lumière nous vient d'en bas, du centre psychique inférieur, lequel est un organe complexe, tout comme la structure du Soleil, que l'astronomie actuelle sait être beaucoup plus élaborée qu'on ne le croyait autrefois. Tous ces rappels, agrémentés de quelques compléments, étaient indispensables pour bien saisir l'élément nouveau que nous allons exposer maintenant. En effet, le problème qui se pose sur ce point de notre raisonnement est le suivant. Grand A, comment donner le maximum de puissance à ce courant de pensée ascendant, qui doit partir de la région périnéale, et s'élever jusque dans le cerveau? Fin des extraits. Retrouvez l'intégralité du livre audio sur le site phosphénisme.com.